Hier, c'était le deuxième jour du procès de celui qui est accusé de négligence criminelle causant la mort de Marie-Pierre Gagné. C'était cette femme enceinte qui est enceinte de plus de 40 semaines qui traversait le boulevard Laurier. Elle traverse cette piétonnière et elle s'est fait happer par Jonathan Falardeau-Laroche. C'est bien ça son nom complet? Oui, exactement. Jonathan Falardeau-Laroche. Alors, elle a été happée. Elle est malheureusement décédée. Par contre, on a pu sauver son bébé. Ça pas été facile non plus, là, mais son bébé a été sauvé.
C'est une histoire qui avait ébranlé beaucoup la population. Je me rappelle, on en avait parlé, c'est vraiment triste.
Ah oui, c'était d'une tristesse infinie. Et le procès a commencé donc avant-hier avec l'interrogatoire du neurologue, en fait, qui suivait Jonathan Falardeau-Laroche. Et hier, c'était le contre-interrogatoire qui commençait et il s'est fait brasser pas mal, le neurologue. Apparemment qu'il y avait des questions assez difficiles à son endroit. Notre collègue Alexis Sanson était sur place. Alexis, bonjour.
Bonjour, Elisabeth.
Alors, ça n'a pas été un interrogatoire facile pour le neurologue hier, apparemment.
Non, bien, effectivement, là, Maître Simon Roy, qui est l'avocat de Jonathan Falardeau-Laroche, avait plusieurs questions pour Dr. Michel Sylvain et il a voulu déjà là, relever plusieurs contradictions dans les témoignages du Dr. Sylvain, notamment entre ce qu'il avait dit lors de l'enquête préliminaire il y a un an et ce qu'il a dit hier lors du procès, hier et également lundi. Alors, déjà, là, Dr. Michel Simon Roy a amené Michel Sylvain sur la façon dont il avait expliqué à Jonathan Falardeau-Laroche la perte de son permis, parce qu'on rappelle que la perte de son permis. En fait, je vais éclaircir déjà ce point-là. Là.
Ouais.
Il y avait déjà eu des questions autour du fait que est-ce que Jonathan Falardeau-Laroche avait le droit de conduire ou non le 10 août 2016 lorsque c'est survenu. Ce qu'on comprend, c'est que Jonathan Falardeau-Laroche avait encore son permis de conduire à ce moment-là. Sauf que le docteur Sylvain avait indiqué à Jonathan Falardeau-Laroche qu'il ne devait pas conduire et qu'il avait discuté avec lui, soutient-il, d'une interdiction de conduire. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'à ce moment-là, Michel Sylvain voulait je dirais, instiguer certaines démarches pour que Jonathan Falardeau-Laroche perde pour la deuxième fois son permis de conduire, parce qu'il avait déjà perdu son permis de conduire le 1er février 2012. Il avait perdu pour 3 mois à ce moment-là. Donc, c'est un peu ce que voulait refaire encore une fois en août 2016 le docteur Michel Sylvain. Bon, effectivement que hier, il y a eu un long contre-interrogatoire de la part de Simon Roy, parce qu'on rappelle que c'est 2 semaines de procès. Là. Donc, en théorie, on s'attendait peut-être à ce que ce soit terminé hier comme contre-interrogatoire, mais ça va se poursuivre encore aujourd'hui. Et là, Simon Roy a posé des questions à Dr. Sylvain, à savoir s'il était informé de ce que ça voulait dire une parjure, s'il était au courant des conséquences que ça amenait de se contredire et de ne pas dire la vérité en cours. Il a posé des questions à Dr. Michel Sylvain sur la présence d'un homme qui l'accompagnait, qui est en fait l'avocat de Michel Sylvain, et lui a demandé notamment s'il avait consulté cet avocat-là ou quelque avocat que ce soit avant d'écrire la note au dossier de Jonathan Falardeau-Laroche. Parce que ça aussi, c'est ce qui est particulier, ce qu'on a appris hier, c'est que la note au dossier de Jonathan Falardeau-Laroche, elle a été écrite après l'accident du 10 août 2016, et non pas immédiatement après le rendez-vous avec Jonathan Falardeau-Laroche.
Mais en fait, de ce que j'ai compris, Alexis, c'est que le rapport au complet de consultation a été fait après l'accident, parce qu'il faut savoir que Jonathan Falardeau-Laroche est sorti du bureau du neurologue, de son médecin, et quelques minutes après, l'accident a eu lieu. Et donc, ce que le neurologue, de ce que j'ai compris, de ce que je lis ce matin, lui a dit, j'ai fait le rapport après avoir pris connaissance de l'accident qui est arrivé très, très rapidement, avant la fin de notre consultation. Et c'est pas une anomalie dans notre milieu de faire les rapports de consultation quelques heures après la dite rencontre. Des fois, les choses se bousculent, on a d'autres tâches qui doivent être effectuées et les rapports sont faits en fin de journée. Lui, il dit que c'est pas anormal qu'un rapport prenne quelques heures avant d'être fait, là.
C'est ce qu'il explique. Il dit des fois, ça prend quelques minutes, quelques heures, parfois ça se fait en soirée, parfois ça se fait le lendemain, sauf que les notes qui ont été prises par Dr. Michel Sylvain pendant la rencontre avec Jonathan Laroche, parce qu'il en prend ces notes-là, il ne les a pas conservées. Et les notes qu'il a dictées au système d'enregistrement du CHUL, elles ont été détruites. Donc, tout ce qui s'est passé pendant la rencontre, ben ça n'existe plus. Tout ce qui existe, c'est ce qui a été dit et écrit par Dr. Michel Sylvain après l'accident. Donc, là, il a été talonné pas mal par Simon Roy, à savoir, est-ce que vous avez consulté un avocat avant d'écrire votre rapport? Est-ce que vous avez changé votre version en fonction de ce qui a été, des événements dont vous avez été informé? Et là, lui, il dit, non, j'ai jamais modifié mon rapport. Il dit, j'ai pas écrit ça en fonction de ce que j'ai entendu aux nouvelles, de ce que ma femme m'a dit. Il dit, je suis pas parfait, mais je fais mon possible. Et là, quand il a écrit ce rapport-là, il l'a aussi transmis à un de ses collègues, à Dr. Richard Desbiens, pour savoir si il ne pourrait pas prendre en charge, c'est un neurologue pour adultes, pour savoir s'il peut pas prendre en charge Jonathan Falardeau-Laroche, parce qu'il est rendu à 22 ans à ce moment-là, Falardeau-Laroche, et en théorie, docteur Sylvain suit les neurologues pour enfants. Et là, ben il explique est-ce qu'il pourrait faire un suivi avec Falardeau-Laroche, et là-dedans, il écrit qu'il a un diagnostic d'épilepsie partielle, qu'il consomme de l'alcool de façon excessive, qu'il est anxieux, et lui écrit qu'il a parlé d'une interdiction de conduire. Et c'est là-dessus que ça accroche notamment, parce que la défense dit, ben on n'a pas de preuves écrites, on n'a pas de preuves tangibles que ça a été dit pendant la rencontre, et c'est là-dessus que se basent notamment les chefs d'accusation de négligence criminelle causant la mort, qui pèse à l'endroit de Jonathan Falardeau-Laroche. Et là, la requête en arrêt des procédures déposée par la défense à la mi-mai devait être débattue hier. À la fin de l'interrogatoire du docteur Sylvain, or, ça n'a pas été le cas. En théorie, ça devrait être le cas aujourd'hui. Donc, si cette requête en arrêt des procédures-là est acceptée, ben ça veut dire que tout simplement, tous les chefs d'accusation vont tomber face à Jonathan Falardeau-Laroche. Dans l'optique où elle n'est pas acceptée, la défense nous dit qu'on va tout simplement tenter de faire exclure le témoignage du docteur Michel Sylvain parce que ça n'a pas lieu d'être.
Et c'est
aussi, de mentionner, Elisabeth, que hier, en salle d'audience, Jonathan Falardeau-Laroche était assis tout juste derrière moi. Et lorsque Dr Sylvain a parlé de ces rencontres-là, où il a notamment abordé le sujet d'interdiction de conduire, lui dit au moins 8 fois, j'ai parlé avec Jonathan Falardeau-Laroche du fait qu'il ne devait pas conduire, et j'ai entendu de longs soupirs de la part de Jonathan Falardeau-Laroche moi, des contestations à voix basse, parfois quelques jurons de la part de Jonathan Falardeau-Laroche, et qui semblait pas du tout d'accord avec ce que le docteur Michel Sylvain expliquait. D'ailleurs, Jonathan Falardeau-Laroche qui s'était apporté un cahier de notes hier pour prendre certaines notes, ce qui n'était pas le cas lors de l'ouverture du procès lundi, mais il était toujours accompagné de sa mère. Et il y avait moins de gens de la famille de Marie-Pierre Gagné un petit peu hier qu'il y en a eu lundi là, en ouverture
du procès. Il est très attentif à son procès, c'est déjà ça. Merci beaucoup, Alexis.
Merci, Elisabeth.
Merci. Alors, hier, en fait, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais c'est vrai que en médecine, ça arrive souvent que les médecins ne font pas leur rapport parce qu'ils doivent remplir un rapport après chaque consultation.
Ils n'ont pas le temps sur le coup, là.
Des fois, ils n'ont pas le temps. Des fois, les choses se bousculent. L'horaire fait en sorte qu'il arrive une urgence, il arrive autre chose et le rapport est fait quelques heures plus tard. Ça aurait été problématique si le rapport avait été fait 4 jours après. Mais le problème, c'est que l'accident est arrivé quelques minutes après qu'il soit sorti
du
bureau.
Mais tu peux pas le prévoir, ça.
Ben, tu peux pas le prévoir. Puis les nouvelles ont pris cette affaire-là très rapidement et ça a commencé à circuler un petit peu partout au bulletin de nouvelles, TVA. Et le neurologue, Michel Sylvain, c'est ce qu'il a dit. C'est qu'il a dit là, à un moment donné, je me suis mis à écouter TVA parce que c'était mon patient. Ça venait juste de se passer. Fait qu'il dit, évidemment, j'ai pas eu le choix de faire le rapport après. C'est pas moi qui contrôle ce qui est mis aux nouvelles non plus. Fait que je peux comprendre que ça peut avoir l'air bizarre, le fait que le rapport a été rempli après l'accident. Parce que là, tu dis, est-ce que mon rapport va être teinté par ce que je viens d'apprendre aux nouvelles? Il est quand même arrivé une chose criminelle. Je vais probablement être appelé à contribuer à cette enquête-là. Qu'est-ce que j'écris là-dedans? Ça peut avoir l'air bizarre. Mais en médecine, c'est pas anormal qu'on prenne un petit peu de temps avant de faire un rapport. Fait que je pense que Michel Sylvain est un petit peu victime des circonstances là-dedans. Là.
J'ai pas de la misère à le croire là-dessus, par exemple. Mais j'aurais tendance à dire que je le crois même.
Ben c'est ça, là, évidemment. Puis le fait qu'il ait parlé à un avocat éventuellement après, c'est normal. Là. C'est son avocat qui est présent dans la salle, mais c'est parce qu'il est appelé à témoigner dans un procès criminel où ses gestes et ses paroles vont être mis en cause. Fait que c'est normal aussi qu'il s'entoure de professionnels là-dedans. Alors c'est à suivre. C'était supposé durer seulement une journée, mais enfin on s'attendait à ce que ce soit fini assez rapidement. Ça se poursuit encore, alors on va suivre ça de près pour vous.